Chapitre 23. Petits arrangements. Mount Pleasant. Vendredi 16 juillet 2010. Gale Wood considérait que Walter, si c'était lui qui avait renversé le policier devant la maison des Sanders, avait dû faire réparer sa voiture en toute discrétion.
« Un choc avec un piéton, » nous dit-il. « Ça laisse des traces sur la carrosserie. J'imagine mal Walter, qui se doute que son véhicule est désormais recherché par la police, prendre simplement rendez-vous dans un garage pour faire réparer les dégâts. Je l'imagine assez contacter son copain mécanicien. »
C'était le début de soirée lorsque nous arrivâmes à Mount Pleasant. Dave Burke était en train de dîner. Le jeune mécanicien de 1999 était devenu le chef d'atelier de la concession Ford. Il nous reçut sous son porche, la bouche encore pleine des pâtes qu'il était en train de manger en famille.
« Désolé, » nous dit-il, « mais ma femme ne veut pas qu'on parle de cette histoire devant les enfants. Elle dit que ça peut les effrayer. »
« On ne va pas vous prendre longtemps, » lui assura Galwood. « On a une seule question à vous poser. Est-ce qu'en octobre 1998, Walter Carey vous a confié sa voiture pour réparer un dégât sur le capot ?»«
répondit Dave Burke pour montrer qu'il faisait un effort de concentration.
« Va pas se mentir, il y a eu une époque où je faisais un tas de petites réparations en douce, payées cash. Je m'arrangeais avec les clients de la concession. C'était uniquement pour des rayures ou de la casse légère. Les gars, ils aimaient bien que leur bagnole soit impec, et moi je faisais ça vite et bien. Je venais chez eux avec un peu de matos que j'avais piqué au garage, de la laque, du vernis, quelques outils. Je leur faisais un rafistolage de qualité. Ça leur revenait nettement moins cher qu'à la concession. Et surtout, je ne venais pas leur inventer tout un tas de suppléments. Walter me contactait régulièrement pour retoucher des petites rayures. Il prenait soin de sa bagnole, il aimait que sa carrosserie soit parfaite.
« Il ne s'agit pas de rayures superficielles, » précisa Galwood, « mais de quelque chose de plus important. »
« Comme vous le savez, le jour de la mort d'Alaska, Walter m'a demandé de lui réparer son phare et son pare-choc. Après ça, j'ai arrêté mes petites affaires. »
« L'événement dont je vous parle a eu lieu avant la mort d'Alaska, justement, en octobre 1998. Est-ce que Walter est venu vous voir après un accident, après avoir percuté quelque chose ou quelqu'un ?»«
Oui, oui, là que vous m'en parlez, je sais plus quand c'était, mais il a tapé une biche sur la route. »«
Une biche ?»
En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. C'était une réparation plus conséquente que ce que je faisais d'habitude. Je voulais d'ailleurs refuser, mais Walter a insisté. Il voulait pas emmener la voiture au garage, car vous devez obligatoirement déclarer à la police toute collision avec un animal sauvage, et il ne l'avait pas fait. Il était en tort et il ne voulait pas se prendre $200 d'amende. Donc je m'en suis occupé. Ça m'a pris quelques soirs de suite dans le garage de ses parents.
Je lui demandai alors, « Est-ce que vous vous souvenez de la date de cette réparation ? C'est très important pour nous. » Dave Burke ferma les yeux un instant comme s'il essayait de revivre ce moment. Je tentai de l'aider. « Vous dites que vous étiez dans le garage des parents de Walter. Est-ce qu'il y a un détail qui vous revient ? Une anecdote, un souvenir qui nous permettrait de situer ce moment dans le temps ?» Après un long moment de réflexion, Dave Burke dit
« Les journaux. J'avais tapissé le sol de journaux. » Et je me souviens qu'au début, je passais plus de temps à lire les articles qu'à réparer cette foutue bagnole. Ça énervait Walter, d'ailleurs.
Qu'y avait-il de si particulièrement passionnant dans les journaux ?
La procédure de destitution du président Clinton, s'écria soudain Dave Burke. Voilà, je m'en souviens, c'était en pleine affaire Lewinsky, et c'est dans le garage des Carey que j'ai suivi toute cette histoire. Ça m'avait marqué à l'époque, le président qui risquait d'être déchu pour une turlute.
Quand a débuté la procédure de destitution de Clinton ? Demanda Lorraine. J'interrogeai Internet au moyen de mon téléphone portable.
Ça a commencé le 8 octobre 1998, dis-je.
Bingo ! S'écria Galwood. Soit au moment du cambriolage. C'était donc bien Walter Carey qui était avec Alaska.
Ce soir-là, malgré l'heure avancée, Patricia Whitesmith, qui ne voulait pas rater les derniers développements de l'enquête, nous retrouva chez Lorraine. Elle fut abasourdie par ce que nous lui apprîmes.
« Donc si je comprends bien, » nous dit-elle, « le père d'Alaska lui vide son compte et elle se venge en allant avec Walter lui piquer sa montre. »«
C'est exact, » lui répondis-je, et l'idée d'une expédition punitive colle assez bien avec la personnalité de Walter, qui d'une part ne supporte pas les injustices, mais surtout réagit au quart de tour. Alaska lui a probablement parlé de cette montre et il lui aura suggéré d'aller la récupérer.
Donc, il récupère cette montre et ensuite, que se passe-t-il ? Demanda Patricia. Comment se retrouve-t-elle au poignet d'Eric ?
Il faut aller lui poser la question demain à la première heure, suggéra Lorraine.
Ton frère ne t'a jamais raconté comment il avait obtenu cette montre ? S'étonna Patricia.
Jamais.
Je dis alors à Lorraine. Tu m'as raconté qu'Eric t'avait demandé de vendre cette montre après son incarcération. Est-ce que c'était vraiment pour aider tes parents à payer les frais d'avocat, ou est-ce qu'il voulait s'en débarrasser car elle le reliait à Alaska et donc au meurtre ?
Où est-ce que tu veux en venir ?
Me demanda-t-elle. Je m'expliquais. Eric, peut-être au courant de ce qui s'était passé à Salem, a pu faire chanter Alaska. Il a exigé la montre en échange de son silence.
Je m'étonne de cette accusation sans fondement, Marcus,
s'éleva Patricia. Sans fondement ? On sait que par le passé, Eric a fait chanter Sally Carré, fis-je remarquer. Il n'en serait donc pas à son coup d'essai. Je ne remets pas en cause l'innocence d'Eric. Il a pu faire chanter Alaska sans l'avoir tué ensuite.
Mais n'a-t-on pas établi qu'Alaska avait besoin d'argent ?
Rappela Patricia. Elle aurait pu vendre sa montre à Eric sans qu'il n'y ait rien de malicieux là-dedans, non ? Qu'en pensez-vous, sergent ?
J'en pense que je me demande si ces menaces reçues par Alaska seraient forcément liées au cambriolage.
À quoi d'autre pourrait-elle faire référence ?
Demanda Patricia Whitsmith.
La disparition d'Eleanor Lowell.
De qui ? Demanda Patricia intriguée.
Eleanor Lowell, une jeune mannequin qui connaissait bien Alaska et qui a disparu dans des circonstances troublantes en août 1998.
Quel est le lien entre les deux affaires ? Interrogea Patricia.
Je n'en sais rien, admit Galloway. Aucun peut-être. Mais j'avoue que je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre ces deux affaires. Instinct de flic. Deux jeunes femmes, de la même ville, mortes à 7 mois d'intervalle, toutes les deux dans des circonstances troubles.
Allons, sergent, s'agaça Patricia. Ne nous dispersons pas trop, on n'y arrivera jamais sinon. On peut aussi se pencher sur l'assassinat du président Kennedy, si vous voulez, mais je crains que ça ne nous mène pas très loin.
Elle se leva et ramassa ses affaires.
On se perd en conjectures. Attendons d'entendre Eric.
Un peu de repos nous fera du bien à tous. J'ai de la route à faire jusqu'à Boston. On se retrouve demain matin à la prison.
Ça ne vous embête pas de me déposer à l'hôtel ?
Lui demanda Galloway.
Je connais Marcus, il va encore traîner et j'ai besoin de dormir.
Je souris à cette remarque. Je ne savais pas si Galloway voulait nous offrir à Lorraine et moi un moment d'intimité ou s'il guettait un tête-à-tête avec Patricia. Ils partirent et je me retrouvais seul dans le salon de Lorraine, sans savoir si je l'importunais ou pas. Elle disparut un instant à la cuisine et en revint avec une bouteille de vin, 2 verres à pied et 1 tire-bouchon. Elle déboucha son cabernet et m'en servit un verre. Puis elle me dit
« Parle-moi de toi, Marcus.
Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Quand on a dîné chez Louini, le soir de ta dédicace à la librairie, tu m'as demandé pourquoi j'étais devenu flic et je t'ai répondu « À cause de mon frère. Puis je t'ai demandé pourquoi tu es devenu écrivain et tu m'as répondu « à cause de mes cousins ». On a beaucoup parlé de mon frère. Parle-moi de tes cousins.
Cette nuit-là, je lui racontais Hillel et Woody, mes cousins de Baltimore, les héros de mon enfance. J'avais parmi mes affaires la photo retrouvée par Oncle Saul, prise à Baltimore en 1995. On m'y voyait entouré de mes cousins et d'une jeune femme de notre âge.
« Qui est-elle ? »
demanda Lorraine.
« Alexandra, » répondis-je, « une ancienne amie. »«
Une petite amie ?» me taquina Lorraine. « Ancienne petite amie. Elle a beaucoup compté dans ma vie. »«
Que s'est-il passé ?»«
Un drame dont je n'ai pas envie de parler. » Je posai la photo sur un meuble. J'allais d'ailleurs l'oublier là. Lorraine me caressa le visage et me dit
« La vie est une succession de drames. » Il ne faut pas se laisser noyer.
Nous nous embrassâmes longuement. Mais je décidai de ne pas passer la nuit chez elle. Je ne voulais pas tout précipiter. Il était très tard lorsque je rentrai à l'hôtel. J'étais un peu sonné par les découvertes de la journée. À mon passage, le veilleur de nuit m'interpella. Il y avait une enveloppe à mon intention. Je l'ouvris et découvris un billet pour le concert d'un orchestre local et d'une chorale de 3e zone qui reprenait ensemble les plus grands airs de Madama Butterfly. Une seule personne pouvait m'avoir envoyé ce billet, Harry Kébert. Lorsqu'il fut conduit en salle de visite, Eric Donovan fut certainement surpris de nous voir de retour à la prison. Contrairement à la veille, c'était Gale, Wood et Lorraine qui étaient assis autour de la table, tandis que Patricia et moi nous tenions dans un coin. Eric comprit aussitôt que la posture de retrait de son avocate ne présageait rien de bon pour lui.